Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage à moitié déconfinée puisque j'ai quitté le moelleux de mon canapé pour retrouver le moelleux des Baroques. Nous sommes
ça
réunis,
bien.
Mais
ah, bravo,
nous sommes seuls, Eva, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, non mais c'est pas
chaque
possible.
Chaque après-midi, vous nous guidez dans la jungle des écrans, mais d'abord, vous
oui,
le savez, à défaut de pouvoir les accueillir en studio, chaque après-midi, on passe un petit coup de fil à une personnalité. Hier, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qu'on imaginait loin du showbiz et qui pourtant avait l'air assez au courant de nos derniers chiffres d'audience puisqu'il a terminé par ces mots.
Merci à vous et bonne chance.
Perfide hein, pour un moine bouddhiste, le Ricard. Aujourd'hui, un comédien qui nous connaît très bien, je dirais même trop bien. Il est déjà venu deux fois dans l'émission. Il est cul et chemise avec Eva Rock, dont il a suivi la vie sentimentale avec beaucoup d'intérêt.
Mais non, sérieux, tu couches avec... Oh, c'est dégueulasse.
Bon, je vous en prie, Ellie. Grishka Bogdanov est un super mec. Bonjour,
oh,
Ellie Semoun.
Bonjour, comment ça va?
Et vous, Ellie?
Écoutez, ça va. Moi, je suis comme vous. Je suis, par contre, dans mon canapé. J'en ai pas bougé.
Vous savez que vous avez le droit de sortir de votre canapé, là.
Là, c'est fini, hein. Vous avez le droit.
Non, moi, ça m'intéresse pas. Je reste en boule chez moi. De toute façon, le confinement va arriver dans trois semaines.
Oh, le reconfinement, vous voulez dire?
Oui, le reconfinement. Donc, je suis bien là où je suis.
Dites-moi, la fois qu'on s'était vu, c'était pour la sortie en salle de Ducobu 3 qui est sortie pile au bon moment, c'est-à-dire il a eu le temps d'être exploité juste avant le confinement.
Ah, oui.
Et là, j'ai un chiffre sous les yeux, je suis allé voir Box Office France 2020, donc vous avez trois films américains énormes, 1917, Sonic et Bad Boys, et en quatrième place, premier film français, 1 462 000 entrées, le film d'Elie Semoun, votre premier film en tant que réalisateur.
Ça vous épate, hein?
Je suis surtout content pour vous.
Moi qui suis d'habitude la victime de cette émission, vous allez me voir autrement. Hein.
Oui, il y a plus de respect,
le réalisateur
vous le sentez,
français qui a fait le plus d'entrées
En 2020.
Bon, pour être un peu cynique, merci le coronavirus. C'est horrible. Non, mais c'est vrai qu'on est, on est tombé dans une fourchette incroyable, fin des gilets jaunes et début du corona. Mais il n'y a pas que ça, le film est vachement bien.
Mais bien sûr, mais disons que ça, vous êtes sorti pile au bon moment, il était bien le film, il aurait pu sortir un mois plus tard, c'était la cata.
Exactement. Ah, je vous ai déstabilisé. Là.
Ah bon, tout à fait. Mais
vous n'avez pas pu le sortir avec toute saloperie.
Mais non, surtout que je ne vous vois pas d'habitude, je vous envoie des trucs sur la gueule, vous vous souvenez la dernière fois, je vous ai envoyé des sachets de thé dessus, c'était quand même plus simple.
Tout à fait, oui, avec grand plaisir.
Là, c'est
on
difficile.
A été respecté. En effet, j'aimerais bien avoir vos yeux bleus en face des miens. Mais...
Ils sont verts, Ellie. La preuve que vous ne venez pas assez souvent et qu'on devrait se voir plus souvent. Ellie, on va parler de Ducobu 3 qui est disponible en VOD et bientôt en DVD. Vous allez nous raconter aussi comment vous avez vécu votre confinement. Juste le temps de vous présenter nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier, très franchement, a dépassé toutes les attentes que je plaçais en lui. En effet, quand j'avais dit en début de saison à Axel de Tarlé, notre très sérieux expert éco, qu'il allait falloir qu'il se décoince, comment imaginer une seconde qu'il se métamorphoserait à ce point et qu'il tomberait sa chemise Cyrillus de conseiller clientèle CIC pour finir
Sado et Mazo, torse nu, dominateur en cuir.
Oui, bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Mathieu.
Je voulais être votre Pygmalion, je suis votre docteur Frankenstein. Je m'en excuse auprès de vos proches. Alors Axel, on connaît la carte des régions, rouge et verte hein, par rapport à la circulation du virus, mais aujourd'hui, vous nous présentez la carte de France des régions les plus touchées économiquement par le Covid.
Voilà, c'est une autre carte de région. Il y a aussi du rouge, il y a aussi du vert. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont plus ou moins touchées économiquement par le coronavirus. Mmh. Il y a certaines régions, alors je vous laisserai deviner lesquelles, qui effectivement sont moins touchées que les autres.
Ah non, c'est
alors,
encore
un quiz.
Vous n'êtes pas très fort
en
géographie.
Non.
Ah, déjà, m'éclater.
Ah, oui, non, on n'est pas fort en éco et on n'est pas fort en géographie, ça va faire mal. Face à vous, Axel, il fait partie de ces inconscients qui n'ont pas compris que le déconfinement devait être progressif, que la vie ne pouvait pas reprendre comme avant, notamment en ce qui concerne la vie sociale. Oui, il fait partie de ces Français qui organisent déjà à nouveau des soirées chez eux.
Avec la queue à l'entrée et même des backrooms dans les toilettes.
Oui, voilà. C'est à cause du Luberlu comme vous, Anissa Mbida, qu'on va se taper un reconfinement, comme disait Ellie. Alors, Anissa Mbida, vous êtes notre expert innovation et aujourd'hui, et c'est ce qui fait un peu que cette émission va être historique, vous nous annoncez que les Japonais ont désormais la preuve que les extraterrestres existent. C'est comme ça que vous m'avez vendu le sujet, en tout cas.
Oui, moi je l'ai même vendu différemment. J'ai même dit que la plupart des gouvernements ont été pris de court par le Covid-19, hein, le coronavirus. Donc au Japon, on anticipe sur ce qu'il faudrait faire si des ovnis, si des petits ovnis venaient attaquer leur gentil archipel.
Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça? Je ne sais pas, il faudrait d'abord trouver un vaccin contre le Covid avant de trouver un vaccin contre les extraterrestres. Bref, merci Anissa et Eva.
Vous avez entendu qu'on doit dire la Covid, en fait. Ils ont tranché, on dit la Covid-19 et pas le Covid-19.
Très
ça
bien,
m'a perturbé ce matin.
Je tenterai de modifier mon texte dans ce sens. Merci
voilà.
Anissa, le programme est donné. L'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Elie Semoun qui nous accompagne cet après-midi pour fêter la sortie en VOD la semaine dernière de votre film Du Cobu. Trois films pour lesquels on vous a reçu en février dernier au moment de la sortie, mais avec Florent Père.
Une interview.
Est-ce que ça fait du bien d'être sans lui?
Allô?
Elie? Allô,
oui,
Elie,
excusez-moi.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... C'est que, vous savez, je suis à la maison, en fait, oui. Et il y a le facteur qui vient de sonner et qui vient de m'apporter des trucs. Donc, en fait, je suis désolée, c'est très irrespectueux de ma part. Vous avez sûrement préparé un petit texte, des petites questions, etc.
Exactement,
et en fait,
très bon.
Le monsieur vient de me donner un truc totalement inutile, c'est-à-dire des factures. Et je ne sais pas, en fait, il y a eu un blanc, en fait. Et je me suis dit que c'était plus important que je prenne mon courrier.
Priorité à la poste, donc, effectivement.
Priorité à la poste. Non, vraiment, c'est honteux de ma part, mais je pensais pouvoir faire les deux trucs en même temps. Souvent, c'est peut-être une réflexion un petit peu machiste, mais les femmes peuvent faire deux ou trois choses en même temps.
Mais pas nous.
Mais
hommes,
pas vous. Hein, ouais.
Non, clairement
mais
non.
Vraiment, décidément pas moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais raccrocher et je vais ouvrir mon courrier et puis on se rappelle dans 15 minutes.
On se rappelle dans 15 minutes. Ça marche, Elie.
On entend.
Est-ce que c'est une grosse facture?
Attendez, j'ouvre ce courrier. Alors... Cher Elie Semoun, tu es un petit enculé, un servif. Je vais te demander de l'argent en fonction... écoutez, on va peut-être parler plutôt du film,
ouais,
en fait.
Exactement, Du Cobu 3. Du Cobu, comédie familiale. Il faut rappeler, à chaque fois, on parle de ce film qui est une comédie vraiment familiale et à chaque fois, on dérive soit toujours sur un sujet
sur
qui n'est pas
sexe.
Familial. Voilà,
oui.
Sur le sexe ou les juifs.
Donc,
essayons de nous recentrer, Elie. On parle de Du Cobu. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de Florent Père avec qui on avait passé un très beau moment la dernière fois, il faut le dire. C'était
Alors,
une émission un peu folle.
Apprenant son décès il y a 15 jours, j'étais super mal. Non, je crois qu'il va très bien. Ça a été un bonheur de tourner avec lui. Hein. Franchement, on s'est vraiment marré. Malgré le fait que ce soit un sale type.
Dans la vie, oui.
Et que dans la vie, et vous le savez, vous, Mathieu aussi.
Bien sûr, mais ce qui compte, c'est devant la caméra.
Toutes ces histoires de pédophilie, tout ça, ça a été complètement effacé avec le temps, en fait, parce qu'il y a prescription. Non, écoutez...
Ça a un effet, le confinement. Il va falloir vraiment que vous sortiez chez vous, je pense. Hein.
Oui, ouais, il faut sortir. Il faut que je couche avec quelqu'un, parce que là, c'est pas possible. Les plantes, vous savez, ça va 5 minutes. Hein. Donc...
Et là, vous êtes très jovial. Juste une question sur... je vous disais tout à l'heure, je vous flattais un peu avec le nombre d'entrées, puisqu'effectivement, c'est le film français qui a fait le plus d'entrées en 2020 du Cobu 3, 1 462 000. Est-ce que vous êtes attentif aussi aux chiffres de la VOD, où vous avez pris tellement là sur le film avec l'intéressement que vous ne regardez même pas les chiffres de la VOD?
Non, j'ai pas encore touché d'argent. Hein. Vous savez, on n'est même pas sûr, parce que les cinémas seront peut-être en faillite, tout ça.
C'est vrai.
Écoutez, pour la VOD, je ne sais pas du tout. J'ai pas les chiffres... Et honnêtement, puisque vous me parlez d'argent, sachant que je suis d'obédience judaïque, je pense que ça a un petit rapport. Enfin ça, non, mais ça c'est une petite parenthèse, mais avec le CSA, on va voir comment on s'organise.
Bien sûr.
La VOD, ça, c'est vraiment pour le plaisir, enfin je veux dire...
c'est pas, on fait pas son beurre
pas
avec
pour
la VOD.
Le plaisir de mon portefeuille. C'est l'occasion pour des familles qui ont été en confinement pendant 2 mois... Et des enfants qui sont ennuyés longtemps de pouvoir regarder ce film qui est purement un film familial.
Oui, contrairement...
Mais les chiffres, non, je les ai pas du tout, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regarder.
C'est sûr que c'est le moment ou jamais, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui sont à la maison en plus. C'est parfait pour la VOD du Cobu 3. Il est tellement souvent avec nous que vous ne savez plus s'il est invité ou chroniqueur. Nous non plus, mais on l'adore. Elie Semoun reste avec nous.
Europe 1.
À suivre, ils ont eu un coup de retard sur l'épidémie du Covid-19, mais ils seront prêts si jamais les aliens débarquent. Après la diffusion d'images d'OVNI jusqu'ici classées secret défense par la NASA, les Japonais préparent officiellement un protocole anti-alien. Au cas où on tomberait sur des extraterrestres hostiles, il faudra alors réagir avec la même fermeté que Jack Nicholson dans Mars Attacks.
Là, on ne joue plus, parce qu'il est grand temps qu'on écrase ces martiens.
Plus de détails donc sur ces martiens avec Anis et Mbida dans un coin.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe. L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Une battle parfois sanglante. sans limite et sans pitié, où chaque journaliste est prêt à exploiter la moindre faiblesse, le moindre faux pas de son adversaire pour non seulement l'accabler, mais parfois même, comme vendredi dernier, l'humilier, le piétiner au sol. Comme l'a vécu ce pauvre Anissé Mbida, qui a eu un problème de connexion au moment du quitte ou double, cette séquence décisive où chaque journaliste doit plaider son dossier. Son rival du jour, l'infâme Axel de Tarlet, s'est tout de suite engouffré dans la brèche. Écoutez, c'est vraiment dégueulasse et c'est un connaisseur qui vous le dit. Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous ? Oh, Anissé Mbida, vous n'êtes pas là, vous n'aurez pas mon point.
Vous voulez que je l'imite ?
Oui, alors, Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous ?
Parce que j'ai fait une chronique donc sur les îles Faroé pour aller les visiter. Tout le monde s'en fout un petit peu, mais en même temps, c'est une chronique dont n'ont pas voulu les matinaliers, donc je m'étais dit que c'était pas mal de l'articler chez vous.
Bonjour Anissé Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour Axel.
Vous avez un droit de réponse, hein, vous avez un droit de réponse.
Non, mais il prend ses vis et les applique aux autres.
À mon avis, en tout cas, quand vous allez vous retrouver tous les deux dans le monde réel, la distanciation sociale entre votre poing et son menton, Anissé, risque de ne pas être respectée. Hein.
Mais non, ils vont se faire des bisous.
Oui. Aujourd'hui, Anissé, votre sujet restera dans les annales de la radio, on peut le dire, et dans l'histoire tout court, puisque vous nous annoncez que les Japonais préparent très sérieusement un protocole anti-alien, ce qui signifie que leur arrivée est imminente, à mon avis.
Oui, vous savez qu'on dit que la prudence est mère de sûreté, hein, c'est un vieil adage qui le répète souvent. Eh bien, les Japonais viennent d'en donner un superbe exemple en mettant en place un protocole, hein, une réponse au cas où des aliens viendraient les menacer. Alors, tout a commencé il y a 2 semaines. L'armée américaine a fait une chose qu'elle fait rarement. Elle a révélé au public 3 vidéos prises entre 2004 et 2015, des vidéos qui étaient jusque-là classées secret défense. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces vidéos ? Ben, une rencontre du troisième type.
Mais non.
Des pilotes de chasse et des ovnis. C'est filmé depuis le cockpit de l'avion. On voit une espèce d'ellipse au loin qui se déplace à une vitesse incroyable. Et elle donne vraiment l'impression d'être pilotée par quelqu'un. Et d'ailleurs, ça impressionne énormément le pilote. On l'écoute. Alors, si je veux traduire, il dit « Regarde ce truc, mon Dieu, ça tourne, il y a tout un essaim. » En plus, ils vont en vent contraire alors que ça souffle à plus de 200 km/h, donc c'est assez impressionnant. Et l'armée américaine a reconnu qu'il s'agissait bien d'objets volants non identifiés. Et comme il n'y avait aucune information sensible dans ces vidéos, eh bien, elle a autorisé la publication de ces images. Et bien, depuis, évidemment, tout le monde y va de sa petite spéculation. Est-ce que les hommes verts existent ? Où est-ce qu'ils sont vraiment ? Quels étaient ces objets volants qu'on a vus sur les vidéos ?
Et donc le Japon, en tout cas, a pris ces images très au sérieux.
Oui, quelques jours après la diffusion des images, ils ont annoncé la mise en place d'un protocole pour indiquer aux militaires comment il faudrait réagir si un jour ils se trouvaient vraiment face à des vaisseaux extraterrestres. Alors, on n'a pas les détails de ce protocole, mais d'après le très informé Japan Times, un quotidien indépendant de l'archipel, l'objectif serait, je cite, de se préparer à l'inconnu pour éviter toute confusion et avec des mesures de suivi, d'enregistrement et une réponse parfaitement adaptée. Parce qu'il faut le reconnaître, aujourd'hui, leurs mesures ne sont pas vraiment adaptées. On demande par exemple de forcer l'appareil inconnu à changer de direction, de le forcer à atterrir ou à faire des tirs de semonce s'il n'obtempère pas. Mais vous imaginez, avec un vaisseau alien qui va à la vitesse de la lumière, il y a peu de chances que ce soit efficace.
Mais est-ce que c'est vraiment sérieux ? Ça a l'air un peu ridicule, Anissé.
En fait, si on lit entre les lignes, ça semble surtout être un bon prétexte. Parce que vous savez que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon s'est engagé à renoncer à toute guerre. C'est devenu un pays presque pacifique. Aujourd'hui, beaucoup de politiques aimeraient revenir en arrière, revenir sur cette décision, et pour pouvoir beaucoup mieux protéger leur pays de ce qu'ils appellent les menaces extérieures. Donc peut-être que toute cette histoire d'aliens, c'est une façon habile d'instrumentaliser les aliens à des fins politiques, et au passage, de montrer comment ce joli pays qu'est le Japon anticipe toutes les futures crises, par exemple.
Eva, vous croyez aux petits hommes verts, vous ?
Mais est-ce que vous savez d'où ça vient, l'origine des petits hommes verts ? C'est une vraie histoire que je vais vous raconter.
Musique au cœur de l'histoire.
Non, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui connaissent pourquoi on parle des petits hommes verts. Parce qu'on a souvent dit ils venaient de Mars, mais Mars c'est rouge, donc aucune raison pour qu'ils arrivent vers.
C'est vrai, évidemment.
C'est martien. Et en fait, c'est parce qu'il y avait c'est dans les années 50 aux États-Unis, il y avait un directeur de cirque, en fait, dont le cirque était en faillite, qui a eu l'idée de prendre des singes, de les raser, de les peindre en vert et de faire croire, en fait, que dans son cirque, il avait des créatures venues de l'espace et qu'il allait les exposer aux gens. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'origine de ces petits hommes verts. Alors malheureusement, les animaux sont décédés parce que effectivement, vous pouvez pas leur mettre de la peinture sur la peau comme ça, quoi. Voilà.
Et bien, alors ça, c'était fascinant. Et comme quoi, le fait de sortir avec Grishka Bogdanov, ça vous apporte plein d'histoires, plein d'anecdotes.
Voilà. Je vous remercie de nous avoir mis en contact finalement.
Voilà, c'est moi qui vous ai donné son 06 quand même.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Anissa Mbida pour ces informations sur les ovnis et la manière dont le Japon se prépare à les recevoir. Axel, une réaction en fair play à la chronique de votre concurrent?
Moi, ça me rassure parce que la barre est très basse là.
Merci pour lui.
Europe 1.
Il était venu nous parler de son film Du Cobu 3 au moment de sa sortie. Afin que j'évite de lui poser des questions cons, il avait lui-même pris les devants en me signalant lesquelles il convenait d'éviter.
La question idiote, c'est « Mais vous avez pas repris le même Du Cobu ?» Non mais c'est la question idiote, parce que les enfants, ça grandit. Les anciens Du Cobu, il y en a un, il est peut-être en Syrie.
Et oui, Elie Semoun fait partie de ces invités qui nous mâchent le travail. Et c'est pas désagréable, il sera en ligne avec nous dans un instant.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission où chaque après-midi, les journalistes de la rédaction jouent au plus malin. Le problème, c'est lorsque l'invité lui-même commence à vouloir jouer au plus malin avec nos journalistes. Elie Semoun, qui est en ligne avec nous cet après-midi, en a fait l'amère expérience sur la chronique culinaire la dernière fois. Le fait d'avoir une amie belge l'autorisait, selon lui, à contredire notre journaliste Olivier Pouls, pourtant belge lui-même, sur la question du nom qu'on donne aux gaufres dans le plat pays. Mal vous en avez pris, Elie.
Comme les Belges sont un peu compliqués, entre wallons, flamands, etc., il y a une autre bagarre sur les gaufres. Gaufres de Liège ou gaufres de Bruxelles.
Ah, qui ne s'appellent pas les gaufres, hein, je sais. Hein,
si, on appelle ça des gaufres de Liège. Tout ça.
Vous êtes sûr?
Allez, avec l'accent, on dit même des gaufres de Liège.
Parce que mon amie est liégeoise. Attends, voilà. Alors, on est dans un débat. La gaufre liégeoise s'appelle comment?
Alors, on appelle ça la gaufre de Liège.
Ah merde! Excuse-moi, j'aurais pas dû t'appeler. Hein.
Alors, Elie, vous avez débriefé avec votre ami depuis?
Oui. Eh ben, ça, depuis, on s'est séparés. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Un signe du destin.
La gaufre de Liège, elle m'est restée en travers de la gueule. Hein. Donc... Mais c'est vrai que tout ce qui est, je sais pas pourquoi, mais je suis vachement, j'adore la Belgique, en dehors de cette jeune fille évidemment, mais on a tourné le film en Belgique pendant 3 mois et ça a été génial. Mais j'aime bien ce que mangent les Belges. Enfin,
de manière générale,
ça m'intéresse.
La carte des frites et des gaufres.
Les frites culinairement, c'est vrai que.
Ah non, mais moi je suis nulle.
D'un point de vue gastronomique, c'est vrai que c'est assez recherché, effectivement, Elie.
Ah non, mais moi j'aime bien les trucs basiques, c'est pour ça que je dis ça. Je suis complètement nulle en bouffe. J'ai une super cuisine. Vous savez, c'est un peu comme ceux qui font du ski, qui se cassent la gueule au bout de 2 secondes. Mais qui aura un super équipement de skieur.
Elie, j'ai hâte de vous retrouver en studio, hein, franchement. Voilà. On fait la prochaine émission à la maison. Alors, Elie, je voulais juste vous parler d'un truc qui nous a ému avec, qui nous a ému, qui nous a fait rire avec Eva.
Complètement cette question. Ouais, allez-y.
Non. On veut vous en parler. C'est le retour d'un duo qui moi m'a marqué. Avec Franck Dubosc. Alors, qui était à l'initiative de ces retrouvailles pendant le confinement?
Alors, vous parlez de Jean Gland et de Didier Verge.
Mais oui.
C'est bien ça. C'est de là dont on parle.
Bien d'eux. Il se fait rire lui-même.
Non, mais parce qu'on a fait un sketch en fait de 2 acteurs porno qui se réjouissent du déconfinement. Et on pleurait de rire parce qu'on essayait de trouver des
noms.
Faites entrer l'enculé, par exemple, ou qui veut gagner des oignons. Qui belle la bite, tout ça. On essayait de trouver des noms, de déformer des noms d'émissions de télé.
Et ça a marché.
Et le fait entrer l'enculé, je crois qu'on est tombé par terre au téléphone.
Et comment vous avez travaillé? Parce que vous nous avez dit l'impro, ça peut être absolument génial, mais la plupart du temps c'est tout pourri. Moi je suis un maniaque du texte, donc là vous avez tout écrit avec Franck.
On n'a jamais improvisé, même quand on écrivait les petites annonces, on improvisait que sur le nom des personnages. On se surprenait chacun en changeant les noms des personnages, c'est pour ça qu'on rigolait beaucoup. Mais non, on a écrit. Il est vachement précis, Franck. Hein. Moi je... Là, vous allez trouver que l'exemple est un peu scabreux, ce que je vais vous donner, mais dans ce sketch, le dernier sketch qu'on a fait pour Instagram, là, avec les 2 acteurs porno, au début du sketch, il enlève quelque chose sur le bout de sa langue, et...
déjà, ça commence bien.
J'imagine le texte.
Apparemment, Mathieu, vous ne l'avez pas vu, le sketch.
Non, celui-là, non.
Mais c'est un détail qui me rappelle tellement les petites annonces. Parce que Franck, il a une précision diabolique. en tant qu'acteur et en tant qu'auteur aussi. Et donc oui, on s'est téléphoné tous les jours avec Franck et on s'est dit, faisons des sketchs, refaisons un bout des petites annonces. C'était compliqué parce que lui, il est dans le sud de la France et j'étais là où je suis. Et donc on écrivait, on se téléphonait, on se disait, tiens, quand tu vas filmer, tu vas regarder à gauche et moi, je vais regarder à droite. On a demandé à une copine de nous faire le montage, de couper l'image, etc. Puis voilà, on s'est bien marré. Ça a fait des centaines de milliers de vues.
Ah oui, ça.
Mais Mathieu, allez voir le dernier sketch
avec les deux acteurs. Je peux vous assurer que je n'y manquerai pas. Parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche, mon cher Élie.
Ah, celui-là, il est vraiment à pisser de rire. Ils sont immondes tous les deux. J'adore ça.
Vous dites, Élie, c'est sûr, artistiquement, c'est il va familial, en sortir ça. Des choses extraordinaires de ce confinement, comme après les deux guerres mondiales. Vous pensez qu'on va avoir une période de foisonnement créatif au sortir de cette période?
Normalement, c'est ce qui se passe, non? Enfin, il faut peut-être qu'il y ait un peu plus de morts, je sais pas. Non, je...
Élie, vous êtes en grande forme aujourd'hui.
Le cynisme.
Hein. Ah oui. Un peu cynique. Cynicos.
Voilà un nouveau personnage, un nouveau monstre.
Un mari cynique, oui. Non, écoutez, oui, normalement, il en sort des belles choses. Moi, je remercie les réseaux sociaux parce que je les aimais pas trop avant et je trouve que ça a réussi à faire un lien avec le public qui nous manque tellement, à
clairement,
nous,
les
artistes habitués à jouer sur scène. Donc oui, à mon avis, il va en sortir des choses, mais peut-être rien du tout. Hein, parce que, enfin, j'avoue que pendant ces deux mois, j'ai honte de le dire, mais je n'ai rien foutu.
Mais comment ça, vous avez écrit les sketchs avec c'est pareil.
Oui, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais voulu lire, j'aurais voulu écrire la suite.
Ah, mais alors, je vais vous dire, ouais, je vais vous rassurer,
monde,
je pense que tout le monde, tout le monde vous a dit la même chose.
Ah bah, ça sidération, pas possible d'écrire quelque chose dans le spectacle ou pas possible d'écrire un film.
Ça me rassure tellement, vous pouvez pas savoir. Parce que je me sens coupable quand je ne fous rien. Et là, c'est vrai que j'envie. Je sais pas, j'ai eu Danny Boone tiens, au téléphone il y a quelques jours. Il m'a dit, j'écris un film. Je sais que Franck Castambide, il a écrit la suite de son...
De Valider, la série.
De Valider, la saison 2. Mais quelle chance. Oui, moi, je n'ai rien pu faire.
Bah, beaucoup nous disent qu'ils sont trop pris par l'ambiance actuelle. Ils auraient l'impression d'écrire autour du Covid ou autour de la période qu'on vit. Et que donc ça,
Puis l'absence de contraintes, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Donc forcément, vous ne savez pas si vous avez une deadline à respecter. Quoi.
Ça, ouais. Vous êtes rassuré, Élie, ça vous a fait du bien.
Je me sens déculpabilisé.
C'est 150 euros la séance.
Au revoir.
150 euros. Voilà, pour le psy. Bon, Élie, on rappelle Ducobu 3, qui est d'ores et déjà disponible en VOD sur toutes les bonnes plateformes. Et le 24 juin, non pas en simple, non pas en double, mais en triple DVD, parce que vous êtes comme ça, vous êtes nos limites, Élie. Élie Semoun, merci d'avoir été en ligne avec nous, et j'en doute pas, à très bientôt en studio.
Merci, c'était
j'en
trop
suis
court,
sûr.
On commençait à se marrer. Ok, avec grand plaisir. Salut Mathieu, salut tout le monde.
Europe 1.
À suivre, votre région fait-elle partie de celles qui vont souffrir le plus économiquement de la crise que nous traversons? La réponse avec la carte de France de l'impact économique de l'épidémie. Axel de Tarlet, notre expert éco, vous la détaille. Axel qui vit et va des jours difficiles. Les chiffres sont si mauvais, les prévisions si catastrophiques. La nuit, il fait des cauchemars horribles où il se retrouve dans des situations assez dégradantes.
Tenu en laisse par Geoffroy de Bézieux du MEDEF.
L'impact économique du Covid par région, c'est juste après The Weeknd. Ignorance sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. when I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you, in your eyes, I know it hurts to smile, but you try to, oh, you try to, you always try to hide the pain, you always know just what to say, I always look the other way, I'm blind, I'm blind in your eyes, you lie but I don't let it define you, oh, define you, in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you, you always try to hide the pain, you always know just what to say, I always look the other way, I'm blind in your eyes, you lie but I don't let it define you, oh, define you,
In Your Eyes, c'était The Weeknd sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Dans cette compétition désormais plus violente que les plus féroces combats de coqs balinés, un journaliste tire son épingle du jeu. Un chroniqueur économique à qui on pâterait le bon Dieu sans confession, mais qui sait pourtant prendre l'ascendant sur ses adversaires. Non pas par la qualité de ses papiers, non, le mec a quand même annoncé que l'épidémie du Covid ferait beaucoup bien à l'économie mondiale, non. S'il prend l'ascendant sur ses concurrents, c'est qu'il n'hésite pas à bluffer quand il faut. Et puisque le concept même du bluff est de faire semblant de savoir quelque chose quand on n'en a aucune idée, Axel se retrouve souvent en position de bluffer. À tel point que parfois, eh ben ça se retourne contre lui, comme face à Hélène Kohl, notre correspondante à Berlin la semaine dernière.
Ich bin ein Europäer, je parle pas allemand.
Voilà. Sacré Axel de Tarlé. Aujourd'hui, Axel, vous êtes venu muni d'une très jolie carte. On ne peut qu'applaudir ce choix très radiophonique.
Sí, yo hablo muy bien español.
Bon. Ah, alors, pas mal.
Voy a describir esta carta en español. Y voy a ganar.
L'espagnol, on sent l'espagnol qui a été forgé quand même en regardant la Casa des Papel.
Ouais, en sixième, cinquième. Quoi. Bon. Alors, oui, effectivement, c'est l'INSEE qui a publié cette carte qui est très intéressante parce que c'est une carte des conséquences économiques région par région. Et on s'aperçoit que toutes les régions n'ont pas été touchées de la même façon par le virus. Et d'ailleurs, ce qui est première chose à dire, c'est que les régions les plus touchées ne sont pas les régions où le virus a le plus circulé.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Alors, à votre avis, quelle est la région de France la plus impactée économiquement
La Nouvelle-Aquitaine.
Non. Alors, je sais que vous n'êtes pas très fort en géographie.
Non, bon,
donnez... bah, c'est pas. Je dirais plutôt une zone touristique, non ou pas?
Exactement. Ah, ouais. Alors,
la Côte d'Azur.
Le sud de la France ou la Corse ou...
La Corse, bingo, ouais. C'est ça. C'est la région de France la plus touchée par le coronavirus. Effectivement, vous l'avez dit, parce qu'un tiers du PIB, en fait, de l'économie corse, repose sur le tourisme,
ça va être une catastrophe,
hôtel, café, restaurant. Voilà. Ouais. D'où l'importance d'ailleurs du plan tourisme qui sera présenté demain par le gouvernement. La deuxième région de France la plus impactée par le coronavirus, c'est l'Île-de-France. Alors là aussi, il y a du tourisme, mais c'est surtout parce que l'Île-de-France, il y a beaucoup de services, de bureaux qui tournent au ralenti. D'où quand même l'importance de redémarrer économiquement, parce que l'Île-de-France, à elle seule, pèse le tiers de l'économie française. Hein.
Ah oui.
L'Île-de-France, c'est quasiment les Pays-Bas.
Mais alors, pour le coup, l'Île-de-France, ils sont à la fois touchés économiquement et touchés sur un plan sanitaire aussi. Hein.
Ouais. Ouais. Et alors, et vous avez raison, la région de France la moins touchée économiquement par le coronavirus est aussi une région qui est très peu touchée d'ailleurs par le virus. Et là, il y a une explication très nette, c'est la Bretagne. Alors, vous savez pourquoi la Bretagne? Parce qu'en Bretagne, il y a une forte filière agroalimentaire. Et donc, cette filière a toujours... Eh oui,
en ce moment, ça marche. Eh oui,
ça a toujours fonctionné pour nourrir les Français pendant la crise. Donc, c'est la Bretagne qui est la région de France la moins touchée. Alors, si on zoome par département, parce que c'est un peu vaste... Il y a un département qui est particulièrement impacté par le coronavirus, c'est la Haute-Garonne. Alors, la Haute-Garonne, je sais que, à votre avis, chef-lieu, hein, vous, les spécialistes de la géographie, c'est
bah, Toulouse. Oui.
Toulouse, voilà, à cause de l'aéronautique.
La ville rose. Ah oui,
ça et l'aéronautique,
Airbus,
Airbus,
voilà. Et on voit bien l'impact sur l'aéronautique, parce que derrière Airbus gravitent quelques 500 PME sous-traitantes. Hein. Et d'ailleurs, si on regarde, je l'avais dit la dernière fois, mais ça se confirme, le Grand Sud-Ouest qui va de Toulouse à Bordeaux, vous avez la filière, parce qu'à Bordeaux, il y a aussi tout ce qui est Dassault. Hein, le Rafale est fabriqué à Mérignac. Donc, toute la filière aéronautique. Vous avez la filière
touristique et viticole.
Voilà. Et vous savez que ça y est, on a commencé à transformer, l'autorisation est tombée, donc les viticulteurs commencent à changer leur surplus de vin en gel hydroalcoolique. Donc, ils sont payés sur la base de 1 euro le litre. Donc il faut quand même.
C'est-à-dire que le cheval blanc qui devient du gel hydroalcoolique, ouais, on perd un peu sur la marge qu'on fait, je pense, hein, forcément.
Voilà. Ça, c'est... Exactement. Voilà, on plaisante, mais ben oui, parce qu'on consomme moins. La bière également, c'est la même chose. Ils ont des surplus de bière dont ils ne savent que faire.
Eva vient de faire un signe de la main. Envoyez-les-moi, les fûts de bière en trop. Elle trouvera un débouché, peut-être même directement dans son estomac, visiblement.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et ce qui est dramatique, c'est que cette carte, je trouve qu'elle montre que derrière ces chiffres épouvantables, il y a des terroirs, il y a des savoir-faire. Il y a des métiers, tout simplement, qui souffrent énormément.
Eh bien, Axel, c'était une belle défense de nos régions, une chronique terroir, mon cher Axel. Un dernier mot, peut-être, pour votre concurrent et néanmoins ami, Anis Mbida.
C'est sur ces silences qu'on juge un acteur.
Oh, si vous voulez.
Europe 1.
Question culture générale, nous sommes dans l'équipe assez béton. Normal, me direz-vous, lorsqu'on présente une émission dédiée précisément à la culture générale. On est bon dans tous les domaines, cinéma, musique, politique, économie, et même, on l'a prouvé hier, bouddhisme. Mais le Dalai Lama,
il est toujours vivant,
ouais. Ben oui, c'est fou.
Ouais.
Enfin, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti d'album, hein, quand même.
Cette connaissance encyclopédique, Eva l'étalait chaque jour à la face du monde via le quiz de Culture G qui le posait à l'invité et dont nous vous proposons de réécouter pour le plaisir les meilleurs moments. À tout de suite.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
La vie, ça tient parfois à peu de choses. Si, en lieu et place d'un quiz de Culture G, nous avions proposé à Eva une partie de poker avec l'invité, elle aurait certainement gagné à tous les coups. Hélas, dans un quiz de Culture G, le bluff ne sert à rien. Dommage, car de ce côté-là, Eva est vraiment...
Bien fait. Dommage. Non, mais vous essayez de dire un
truc méchant. De ce côté-là, Eva est vraiment une championne. Comme elle nous l'a encore prouvé hier face au moine bouddhiste Mathieu Ricard, devant lequel elle a maintenu... l'immaintenable.
J'en ai déjà fait des retraites spirituelles.
Vous avez fait des retraites spirituelles?
Oui,
des retraites au Cap d'Agde. On embrasse d'ailleurs tous les maîtres spirituels avec qui vous avez beaucoup échangé là-bas.
Alors celui que j'adore, c'est Fred Asperge.
Oui, nous préservons leur anonymat. En attendant votre prochaine retraite spirituelle, Eva, si on se réécoutait quelques-unes de vos performances les plus éblouissantes dans notre fameux quiz.
Eh ben, on va essayer.
Ça vous ferait plaisir?
Non, pas franchement, mais si, allons-y quand même.
Allez. Patrick Timsit, tous les jours, à cette heure-ci, pour se détendre, un petit quiz thématisé oppose notre invité à Eva Rock. Et en hommage au film J'irai où tu iras, vous êtes le père de Leïla Bekti et Géraldine Nakache, on fait un vrai faux sur les relations père-fille. Des relations pas toujours faciles.
Mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard.
Parfois, pas toujours simple d'élever une fille. Vous répondez chacun votre tour, chaque bonne réponse vaut un point. Patrick Timsit, la fille aînée d'Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, est entrée au couvent des Ursulines, Ursulines Covent, à la Nouvelle-Orléans, à l'âge de 16 ans. Et il y est toujours aujourd'hui, vrai ou faux?
Moi je dirais vrai. C'est pour se débarrasser, pour être libre de pouvoir vivre.
C'est vrai.
Parce que vivre cette vie sous le regard de sa fille, je préférerais qu'elle soit au couvent. Parce que là, si elle est dans la même maison, et dans les mêmes petits-déj, et dans les mêmes soirées, à un moment, il y a quelque chose de raté.
C'est vrai. Il aurait dû l'y mettre, si j'ose dire. Par contre, la fille de Peter Falk, l'acteur de Columbo, est détective privé.
Ce qui n'a aucun rapport.
Mais, oui, mais si.
Oui.
Le lien père-fille.
Oui.
Mais Eva, je vous interdis de critiquer mon quiz.
Hein, sinon, il est excellent, attention. Ce quiz.
Oui, il est très bien. Vraiment très bien.
Oui,
allez-y, posez votre question.
Eva Rock, justement, c'est pour vous. Alors attention, en 2017, Tim, jeune papa américain, a inventé le Swipe and Feed, un porte-biberon qui se fixe à son smartphone, bien pratique pour aller sur Instagram tout en nourrissant son bébé. Vrai ou faux?
Le pire, c'est que je crois que c'est vrai.
Vous êtes sûr?
Ouais.
Ah oui, vous êtes sûr. Le Swipe and Feed est compatible Apple, Samsung. Il est fabriqué grâce à une imprimante 3D et on peut le nettoyer en machine à laver. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons.
J'aurais préféré me tromper pour tout vous dire.
Attention, tous les deux. Une question, trois propositions. Vous répondez ensemble. Jonathan Soriano joue au foot en Autriche à Salzbourg. Un soir, il arrive en retard, seulement à la mi-temps du match, car il est allé assister à la naissance de sa fille. Que s'est-il passé ensuite? Trois propositions. 1. Il a mis 3 buts. 2. Il a appelé sa fille Goal. 3. Il est resté sur le banc de touche et il a eu bien les boules.
C'est difficile hein, de savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur de foot.
Surtout autrichien.
C'est vraiment compliqué. Hein. Ah, vraiment. Non, moi je le vois bien marquer 3 buts.
3 buts.
C'est vraiment. En tout cas, il en a rêvé. Il rêvait sur le banc de touche qu'il allait marquer 3 buts en 10 ans goal.
Ah, je pense qu'il est resté sur le banc de touche.
Ouais, ben c'est Patrick Timsit qui remporte le point. Ah, non seulement il a mis 3 buts en 45 minutes, mais en plus il a offert la victoire à son équipe. En plus, Salzbourg, je crois que c'est une équipe de Ligue 1 en Autriche. Donc c'est pas un match de campagne. Quoi. C'est vraiment une belle affiche.
C'est pratique, l'oreillette. Hein.
Ah, non,
c'est dingue. On va croire qu'il sait tout. Quoi. C'est vrai.
Je joue beaucoup de ça.
Ah oui.
Patrick Timsit, Mick Jagger. Alors attention, Mick Jagger a un fils plus jeune que son arrière-petit-fils. Vrai ou faux?
Ah, ça, c'est tout à fait possible. Ah oui, que son arrière-petit-fils.
Il a un fils plus jeune que son arrière-petit-fils.
L'arrière-petit-fils, on me fait signe en régie. Non, pas du tout. Mais comment il peut être plus jeune que son arrière-petit-fils? En même temps, ça a inspiré la question, je dirais. Oui, vous avez raison.
C'est incroyable. Mick a été père 8 fois dans sa vie. Le petit dernier est arrivé 45 ans après sa première fille. Mick était grand-père. Et grand-père, pardon, depuis qu'il a 42 ans. Et il a eu son dernier fils à 74 ans avec une femme de 31 ans dont il s'est séparé pour une jeune femme de 23 ans avec qui il s'est séparé encore aujourd'hui.
Oui, parce que la précédente était trop vieille.
Évidemment. Attention, Everock, cette question va vous départager. La grenouille de Darwin d'Amérique du Sud naît par l'anus du mâle de l'espèce. Vrai ou faux?
Répétez, s'il vous plaît.
La grenouille de Darwin d'Amérique du Sud naît par l'anus du mâle de l'espèce.
Je sais, mais je vous aiderai pas.
Non, mais non, je dis non.
Ah oui, non, effectivement.
Mais faire des questions
elle
comme
a une
ça.
Spécificité, c'est pour ça qu'on pose la question. Elle naît par la bouche. La femelle abandonne des œufs fécondés dans la bouche d'un mâle qui n'est d'ailleurs pas forcément le père biologique. Il les garde jusqu'à éclosion dans la bouche.
C'est un bon papa.
Fascinante nature. Égalité dans ce quiz, j'aime bien comme ça, distribution égale des points et il n'y a pas de déçu, l'invité repart content.
Il n'y a pas une question pour départager?
Non.
J'aimerais gagner, moi.
Oui.
Je vous laisse la victoire.
Oh, comme c'est mignon. Moi, je vous l'offre.
Oh, c'est gentil. Merci.
Que d'émotion dans le studio. Votre autre actualité, Patrick, c'est cette annonce cet été, une annonce que je n'ai pas beaucoup appréciée. Votre prochain One Man Show serait aussi le dernier. Est-ce que c'est possible de mettre un veto ou de faire on peut se cotiser sur chaîne.org, une pétition? C'est pas possible, ça, Patrick. Pourquoi ça sera le dernier?
C'est exactement la réaction que j'attends, justement, qu'on me demande pourquoi.
Non, parce qu'il y a des humoristes qui s'essoufflent, mais vous, le dernier spectacle était tellement, on peut le dire, il était dingue, le dernier spectacle. Vous êtes sur la pente encore ascendante. Pourquoi arrêter maintenant?
Mais parce que ça fonctionne, parce que justement, parce que
vous allez vous ennuyer.
Spectacle de trop, peut-être, et de se dire, voilà. Et puis, alors c'est vrai que le thème des adieux, je me rends compte, puisqu'on a commencé à l'écrire, là, vraiment, il est construit et tout, mais là maintenant on rentre dedans. C'est un vrai thème, donc ça vaut le coup de vivre ces adieux quand on vous dit non, pars pas, plutôt que dégage ou je viens pas. Il vaut mieux partir avant qu'on vous fasse partir, quoi, vous voyez le principe.
Ouais,
et c'est vrai, c'est pour ça que j'y crois.
Vous y croyez, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà même trouvé le titre du spectacle d'après.
Oui, c'est vrai, je l'appellerai Oups. Je m'ai trompé.
Europe 1.
Clairement, l'épisode du confinement marquera un tournant dans l'histoire de la psychologie enfantine. À se coltiner les mioches 24 heures sur 24 sans possibilité de les refiler à une maîtresse payée pour ça, une nounou ou un prof de judo, on a réalisé que la méthode Dolto appartenait au passé. L'enfant roi, finito. Et on a assisté à la naissance de la méthode Rock. Une méthode parfois critiquée pour sa violence. C'est vrai que, comme le dit Eva elle-même...
C'est un peu Tarantino chez les marmottes.
Mais ça marche.
C'est vrai, c'est ça.
Ça marche. Vous mettez les gosses devant la télé et ça, comme ça, ça vous permet de souffler. Les excellents conseils d'Eva arrivent juste après une nouveauté. Ah tiens, un titre étonnant, Eva. Ça s'appelle « Mes mères ». Voici Sam sur Europe 1.
Fais pas la gueule, mes mères. Je suis un enfant et je n'ai que 13 ans. Jeune, j'ai le feu au derrière. Je cavale comme un grand. Tagines qui sont de nos origines d'Orient. Mais quand tu m'appelles, je décline. Je suis en speed trop souvent. Et maintenant, j'y tourne.
à toi. Et maintenant je trouve le temps. Mais tu n'es plus là. Là, 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 là. Là, 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 là. La gueule, même heure. Je ne suis plus un enfant, j'ai déjà 20 ans. Je suis étudiant en dentaire pour rendre fière maman. Saoulé, je suis sous l'eau. Et je ne trouve plus un seul instant pour te chanter des mélos. Tu me traites de fainéant. Tu savais suspendre le temps, mais c'était ton dernier hiver. Ah, si j'avais su avant, mais tu n'es plus là, 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 là. Ta dernière ride.
Mémère, c'est tout nouveau et c'est déjà dans la playlist des Baroques. C'était Sam sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Jacques Martin disait « Les enfants sont formidables ». Et il avait raison, les enfants sont formidables, mais pas 24 heures sur 24. Après 2 mois de confinement, vous qui continuez de les gérer, les occuper, les nourrir, tout en subissant leurs reproches et en parvenant miraculeusement à télétravailler entre 2 batailles de ravioli, vous avez parfois envie de les attraper par l'oreille et de leur dire posément
« Je vais te défoncer la tête maintenant. Je vais te massacrer. Je te tuerai, espèce d'enfoiré !»
Dans ces moments-là, n'oubliez pas qu'il existe une solution pour avoir la paix. Elle n'est pas politiquement correcte, certes, mais elle marche. Mettez-les devant un écran.
Ah oui, c'est
Eva.
Très bien. Je pensais que vous alliez dire, vous les envoyez à Eva. Non, non, parce que je ne prends pas tout le monde là. C'est pas possible.
Alors vous seriez une nounou formidable.
Ouais, oui, peut-être. Je sais pas. Alors, en tout cas, je m'adresse aux plus petits aujourd'hui, enfin aux parents des plus petits, avec pour débuter un classique de l'animation, Mathieu, qui est diffusé en France depuis 2006, quand une famille de cochons trop mignons débarque sur nos écrans. Peppa Pig ou les aventures de Peppa. Donc, vous connaissez.
Ah ben je connais, et Mathieu Béliard, qui pense la matinale d'Europe 1, a une théorie très intéressante sur Peppa Pig.
Vous allez me la dire après, je pense savoir.
D'accord.
Donc Peppa Pig, donc, avec Peppa, la petite fille de la famille, qui adore faire des bêtises, notamment sauter dans des flaques de boue.
J'adore sauter dans les flaques de boue.
Peppa, si tu as envie de sauter dans les flaques, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc.
D'accord, maman.
Quelle est la théorie de Mathieu Béliard?
La théorie de Mathieu Béliard est que la musique de Peppa Pig, pas du tout la théorie cochonne que vous avez évoquée hors antenne avec moi à l'instant et que je ne répéterai pas évidemment pour nos auditeurs. Non, la théorie de Mathieu Béliard, qui présente la matinale d'Europe 1, est que la musique de Peppa Pig est pompée, ou plutôt l'inverse, la musique de la pub Carglass.
Vous avez raison, on vient de l'entendre là.
Carglass remplace Carglass bidule et Peppa Pig.
C'est la théorie de Mathieu Béliard, qui a l'oreille musicale. Il a peut-être raison.
Nous vérifierons.
Il a peut-être raison. En tout cas, moi, je trouve ce dessin animé très mignon.
Vous aviez une autre théorie.
Oui, j'ai une autre théorie, mais
sur la ressemblance entre
les dessins
et une partie du corps humain qui peut parfois vous intéresser. En tout cas,
oui.
Quand on est déconfiné.
Voilà, que je n'ai pas.
Que vous n'avez pas, effectivement.
Exactement. On va essayer de rester sérieux.
À nos auditeurs
d'imaginer.
D'imaginer tout ça.
Voilà, on va essayer de rester sérieux parce que c'est un dessin animé qui est très mignon et qui a une intention louable qui est de, à travers ses pastilles de 5 minutes, d'initier les plus petits quand même à l'apprentissage du langage et de la politesse. Alors, comme souvent dans les programmes jeunesse, vous savez, les mêmes phrases sont répétées, mais c'est vraiment dans un but de compréhension, évidemment. Et ça marche. Hein. Les enfants sont fascinés, voire un peu bloqués devant l'écran. J'en connais une d'ailleurs qui adore découvrir les aventures de Peppa tous les jours. Je l'embrasse. Peppa Pig, c'est quand même un succès considérable, Mathieu. Un spectacle, adaptation en jeu vidéo, produits dérivés en pagaille. Heureusement, ça c'est mon côté sadique, heureusement que les petits ne savent pas d'où vient le jambon qu'ils dévorent régulièrement tous les jours.
C'est terrible. Voilà.
Les épisodes de Peppa Pig sont disponibles sur France.tv et sur Netflix.
Et je crois qu'Alice Moon, qu'on avait tout à l'heure, prépare une version un petit peu trash de Peppa Pig rapport à l'idée que vous aviez. Votre deuxième choix se porte sur quel programme?
Alors, sur un site internet pour un jeu culturel absolument formidable qui est destiné aux 7-11 ans et qui est élaboré, écoutez bien, par deux orchestres, l'Orchestre de Chambre de Paris et l'Orchestre National d'Île-de-France, par l'Opéra de Rouen en Normandie et une start-up qui s'appelle Nomad Music, un jeu qui débute comme ça.
Zik, le petit extraterrestre fan de musique, traverse la galaxie à la recherche de nouvelles expériences. Soudain, son musicotronique appareil de détection sonore s'affole. Des trésors musicaux se trouvent sur cette planète. Vite, allons les découvrir.
Alors Zik, c'est effectivement un petit extraterrestre qui est fan de musique, qui possède donc un musicotronique. C'est un appareil de détection sonore qui va se déclencher régulièrement, notamment quand il s'agit de découvrir trois œuvres classiques auxquelles sont associés des jeux. Alors par exemple, reconnaître des instruments à travers la symphonie numéro 83 de Haydn, trouver l'oiseau de feu dans le pommier d'or sur les notes de Stravinsky, ou encore surmonter des épreuves pour retrouver Blonde, Constance et Belmonte au son de l'enlèvement au Serail, l'opéra de Mozart. Tout ça donc sur votre ordinateur, en se déplaçant avec la souris et les flèches du clavier. C'est vraiment un parcours qui est digne d'une chasse au trésor qui est balisé par des présentations en texte, des œuvres et des artistes en question. Alors attention, c'est pas un jeu vidéo qui est digne des blockbusters qu'on peut connaître et qu'on trouve sur les consoles, mais c'est vraiment très très bien fait et surtout c'est très intelligent parce que chaque jeu, chaque étape permet de découvrir les extraits de ses œuvres, de la grande musique. Donc pour illustrer un jeu vidéo, c'est le cocktail gagnant de cette plateforme gratuite et ça s'appelle orchestralab.fr. C'est vraiment pour les enfants à partir de 7 ans. Moi je me suis régalée, j'ai joué et c'est formidable, on découvre plein de choses.
Et puis surtout ça confirme la théorie d'Anissa Mbida selon laquelle les extraterrestres existent.
Exactement, Zik est déjà là.
Visiblement, il est déjà là et j'espère que les Japonais ne vont pas l'emmerder.
Non.
Merci beaucoup Eva.
Europe 1.
En l'espace d'une heure, vous venez d'apprendre comment anesthésier durablement vos enfants et ados. Vous avez appris grâce à Axel de Tarlé si votre région allait trinquer ou pas économiquement avec la crise. Anissa Mbida vous a même révélé l'existence des extraterrestres. Comment imaginer que la deuxième heure de l'équipée sauvage puisse être encore plus passionnante? Eh bien pourtant les amis, je suis en mesure de vous annoncer qu'elle sera encore plus féerique que la première. Bon après, l'excès de confiance fait partie de mes défauts, notamment quand je me bats pour avoir un invité. Teddy Riner, pourquoi il est là à la télé? On n'essaierait pas d'avoir Teddy Riner?
On a essayé.
Et il veut pas?
Pour l'instant, on l'a pas.
Mais je le défonce. Je suis un peu présomptueux parfois, peut-être.
Ouais, je pense.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe.